Briançon, Gap, Castellane, Sisteron, Digne, Manosque, Marseille, Fréquence Mistral.
Nahiri Boudet, notre chronique, c'est tout de suite et nous avons le plaisir de vous retrouver avec aujourd'hui un sujet que vous avez bien sûr sciemment choisi.
Oui, en effet, aujourd'hui nous allons parler de manipulation. C'est un mot qui fait souvent peur quand on l'entend, on se dit on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui soit extrêmement connoté négativement et pourtant aujourd'hui on fait tomber les masques, je crois qu'on peut dire qu'on se manipule tous, on se manipule soi-même en permanence ou quasi permanence.
Est-ce que manipulation, c'est pas inclure énormément de choses peut-être un peu vagues, un peu floues? La manipulation, c'est quoi?
Eh bien, en fait, c'est Jean-Léon Beauvois, un sociologue que j'aime beaucoup, qui en parle. En fait, la manipulation, c'est lorsque je vais, pour satisfaire mes intérêts, faire en sorte qu'une autre personne adhère à mes intérêts sans qu'elle soit consciente des intérêts que j'ai là-dedans. C'est-à-dire, en gros, je vais faire en sorte que la personne que je veux faire adhérer à mes vues ne sente pas que j'ai intérêt à la faire adhérer à mes vues et qu'elle pense que ça vient d'elle.
Donc, c'est une stratégie sciemment mise en place de la personne. Il y a toute une logistique, tout un calcul et tout un intérêt qui gravite autour de ça.
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que quand on parle de manipulation, on a tendance à penser à stratégie dans le sens où c'est quelque chose de, comme vous disiez, sciemment élaboré, planifié, etc. Sauf que si on revient à la manière dont le terme stratégie est employé en sens social, c'est-à-dire une stratégie, c'est mise en action, une manière d'agir en fait. Au cabinet, avec les personnes avec lesquelles je travaille, je parle souvent de stratégie dans le sens où ce qui est mis en place pour répondre à une intention. Par exemple, lorsque je suis angoissée, je vais mettre en place des stratégies, c'est-à-dire que je vais manger, boire un peu d'alcool, sortir voir mes amis, me mettre devant Netflix, appeler ma sœur. Voyez ? Donc en fait, ce qu'on appelle stratégie, c'est pas forcément quelque chose de consciemment élaboré et pensé en amont. C'est-à-dire, si jamais un jour je suis angoissée, je vais soit A, appeler ma sœur, soit B, appeler le livreur McDo, soit C, me mettre devant Netflix. Mais il se trouve qu'en pratique, ce sont des stratégies, donc des moyens utilisés par la personne pour essayer de réguler l'angoisse. C'est comme ça qu'on va parler de stratégie, c'est-à-dire non pas en termes de planification, mais finalement en termes de pratique, les techniques, les choses que je vais mettre en place pour essayer de venir à bout d'une émotion inconfortable. Et la manipulation, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que mes stratégies, elles sont plus ou moins bien définies dans ma tête. Sur le coup, on imagine peut-être un commercial dont c'est le travail, ou un publicitaire dont c'est le travail de se dire « mais comment je vais arriver à vendre mon produit ?» Lui, il va effectivement recourir à une véritable stratégie marketing qui va être étudiée par lui et sa bande de collègues, et puis soumise à peut-être, des experts avec lesquels ils vont réfléchir. Mais ça, c'est devenu un travail. C'est une stratégie travail. Tandis que là, ce dont je vous parle, c'est plutôt une manière de faire, en fait, une manière de communiquer, même parfois. C'est-à-dire que si mon intérêt, c'est que l'autre me voit comme quelqu'un de bon, eh bien, je vais essayer de donner à voir des choses de moi qui vont le conduire à me percevoir comme quelqu'un de bon. Et quel peut être mon intérêt là-dedans ? Que cette personne soit charmée, par exemple, et qu'elle m'aide. Qu'elle m'aide peut-être si je suis une femme célibataire et que j'ai besoin d'aide dans mon quotidien et que je ne suis pas accompagnée de quelqu'un de doué pour le bricolage dans la vie. Par exemple, ça peut être intéressant pour moi d'entretenir une relation plus ou moins ambiguë avec un monsieur, par exemple, que je pourrais solliciter lorsque j'ai besoin d'aide pour entrer mon bois pour la cheminée ou de m'aider si j'ai une fuite dans ma machine à laver. Mais ça ne fait pas de cette femme une grande méchante. Ça fait de cette femme une personne qui a des intérêts, survivre, Et je ne dis pas que c'est une question de vie ou de mort, mais c'est-à-dire survivre socialement, pouvoir continuer à laver ses fringues et se chauffer. Et donc, elle a appris au cours de sa vie à mettre en place des stratégies. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas penser, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir utiliser Robert, mais en fait, c'est une manière d'être, en fait, avec Robert, de lui accorder de l'attention et de faire en sorte que lui ait envie de m'accorder de l'attention et par exemple de venir me sauver lorsque je suis en galère. Donc c'est pour ça que justement Jean-Léon Beauvois et un autre collègue sociologue à lui, Robert Vincent Joule, ont écrit un livre que j'adore qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Un livre donc qui, quelque part, fait vraiment complètement tomber les masques.
La manipulation, à quel moment peut-elle intervenir dans le couple? Et en ce qui concerne la sexualité du couple, de quelle façon est-ce qu'on peut l'analyser et peut-être la comprendre aussi?
Eh bien, des formes de manipulation peuvent exister de plusieurs manières, en fait, dans les couples. Je tiens d'abord à vraiment préciser que lorsque je parle de manipulation, je ne parle pas de manipulateur. Je parle de stratégie de manipulation, je ne parle pas de manipulateur ou de pervers narcissique. Je parle de personnes qui utilisent des procédés de manipulation. Et peut-être que vous pourriez penser que c'est juste une envie de nuancer par le langage, mais pour moi c'est très important de le faire parce que ça permet d'éviter l'essentialisation, c'est-à-dire le fait de qualifier la personnalité d'une personne. Ce sont des stratégies de communication, des stratégies relationnelles auxquelles je recours plus ou moins consciemment, non pas parce que je suis méchant, mais parce que j'essaye de faire en sorte que le monde aille dans le sens dans lequel j'ai besoin qu'il aille, au vu de ce que j'identifie comme étant mes besoins. Après, ce que je mets en œuvre pour que le monde aille là où j'ai envie qu'il aille, ça peut être plus ou moins fallacieux. Je peux utiliser des techniques plus ou moins manipulatrices, mais ça ne fait pas forcément de l'usager de ces techniques un méchant. C'était important pour moi de préciser. Et justement, lorsque je reçois au cabinet des personnes qui me disent, par exemple, mon compagnon me dit que à chaque fois que je le surveille trop, et que c'est parce que je le surveille trop que du coup, il est tenté d'aller voir ailleurs parce qu'il en a marre, ben, parfois ça se discute aussi, vous voyez, puisque le fait d'avoir envie d'aller voir ailleurs, on en a déjà parlé, hein, de l'infidélité et du désir que l'on peut avoir pour autrui, ce sont des choses qui sont tout à fait compréhensibles et je pense même des choses dont il est important de parler, parce que ce sont des choses qui sont normales dans la vie conjugale. Par contre, le fait de rendre l'autre responsable en lui disant « Mais si je suis tentée d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'aujourd'hui, tu me presses trop de questions. » Là, par exemple, là, ça commence à être intéressant. Alors, est-ce que ça fait partie d'un procédé de manipulation? Oui et non. C'est-à-dire, si ça commence à prendre beaucoup de place et que je rends régulièrement mon partenaire ou ma partenaire responsable de mon comportement en le ramenant sans cesse à cet argument-là, là, on peut parler de manipulation, en effet. Ça ne fait pas de ce monsieur, dans mon exemple, un gros méchant. Ça fait quelqu'un qui s'arrange avec la réalité pour éviter de se sentir coupable, par exemple. Peut-être que lui-même y croit. Il n'empêche que c'est fallacieux.
Culpabiliser quelqu'un, c'est effectivement quelque part le manipuler à plus ou moins certains niveaux, on va dire. Quels sont les degrés de cette manipulation et comment peut-être les classifier en fonction de quoi, vous qui êtes une personne qui êtes en relation avec l'état de personne et de couple?
Je ne sais pas s'il y a vraiment différents degrés à retenir, mais je crois que c'est à partir du moment où on voit que ça a un impact important sur la personne, en fait. Si je me mets à douter de ma perception, si je me mets à douter de ma bonne santé mentale, si je me mets à douter de... Enfin, si je commence à me demander si je suis une bonne personne ou pas, bien à ce moment-là, je pense qu'on peut commencer à dire que la stratégie de manipulation est peut-être trop importante. Mais justement, Jean-Léon Beauvois, dont je parlais tout à l'heure, le sociologue, je regardais la dernière fois une conférence. Il est assez âgé, ce monsieur, donc il a bien connu la présidence de Jacques Chirac. Et il disait qu'il avait été sondé, donc pour un sondage, donc, et il disait qu'en fonction de la manière dont les questions étaient posées, ça pouvait clairement influencer la réponse. Par exemple, si je vous demande « Quels sont les événements marquants que vous avez vécu sous la présidence de Jacques Chirac ?» en question 1. Puis, seconde question, « quels sont les événements heureux qui sont arrivés sous la présidence de Jacques Chirac? Et en troisième question, je vous demande, quel avis donneriez-vous sur la présidence de Jacques Chirac? Vous serez déjà fortement influencé pour répondre qu'il y a des trucs marquants et heureux. Au moins peut-être la coupe de football, la coupe du monde 98. C'est pas la même chose si je vous demande quelles sont les critiques que vous auriez émettre sous la présidence de Jacques Chirac et que juste après je vous demande qu'avez-vous pensé de la présidence de Jacques Chirac. Donc vous voyez qu'on peut nettement influencer quelqu'un, donc manipuler, sans pour autant être méchant. Peut-être même sans être forcément conscient, une question qu'on peut se poser quand même lorsqu'il s'agit d'un organisme de sondage. Mais dans le couple, ça peut être pareil, en fonction des questions que je pose, ou même entre amis. Par exemple, justement dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, les deux sociologues que je nommais tout à l'heure parlent de la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que je vais d'abord vous proposer quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Est-ce que tu pourrais me dépanner d'un stylo pour cet après-midi? Mettons, nous sommes deux étudiants, parce que cet après-midi dans l'amphithéâtre, parce que j'ai oublié ma trousse, ok? Et puis ensuite, je viens vous demander, est-ce que tu pourrais me prêter ton iPad pour l'après-midi, parce que j'aime bien prendre des notes sur un support numérique, par exemple. Vous voyez, donc la technique inverse existe aussi, c'est-à-dire demander quelque chose de très gros, à laquelle la personne dit non. Et puis ensuite, je vous demande quelque chose qui a l'air tellement, tellement, tellement de moindre importance comparé à cette chose très importante que je viens de vous demander que forcément, vous êtes tenté de penser oui. Voyez, donc c'est pour ça qu'on parle de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas méchant quand on agit de cette manière. Mais quand même, c'est discutable.
Alors une fois qu'on a conscience qu'on est manipulé ou qu'on est manipulateur aussi, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il faut changer?
En effet, la question se pose parce que souvent on a envie de changer quand on sent qu'on ne se retrouve pas dans le modèle relationnel qui a été initié. Et justement, c'est ce que je travaille avec des personnes qui viennent au cabinet, par exemple des couples qui fonctionnent essentiellement sur des techniques de communication passif-agressif. C'est-à-dire plutôt que de se dire directement les choses de manière authentique, vont recourir à une espèce d'humour critique. Voilà, c'est ça, le passif-agressif, ça veut dire « ah ah, je rigole, mais en vérité, je t'envoie une bonne punchline dans la tête, quoi. » Et ce sont des personnes qui viennent au cabinet et qui me disent « mais en fait, je crois que je ne me retrouve plus dans la relation ». Et en effet, c'est difficile de se sentir à sa place dans une relation quand il y a trop de biais de ce genre et donc pas de communication authentique. Donc l'idée, en fait, c'est déjà de sentir quand on fait usage de ces techniques-là. Encore une fois, ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est-à-dire que normalisons tout ça. Nous avons tous tendance à essayer de faire en sorte que les choses aillent dans le sens que nous voulons qu'elles prennent. Ceci étant posé, on peut essayer d'avoir un regard conscient sur tout ce qu'on met en œuvre pour que le monde aille dans notre sens et se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur les autres et notamment ceux avec lesquels on a envie de relationner de manière intime.
Nairi, notre émission se termine. Nous allons nous séparer. Avant cela, peut-être un petit rappel sur vos coordonnées, de quelle façon on peut vous contacter.
Déjà, merci à tous pour votre écoute. Peut-être êtes-vous fidèles à ces émissions sur Fréquence Mistral. Et si cette discussion vous intéresse, si vous pensez qu'avoir des échanges à ce sujet vous permettrait d'avancer dans votre vie et de devenir plus conscient des relations que vous initiez sur le plan conjugal, par exemple, je vous invite à me contacter au 07 49 92 31 65 ou à d'aller sur mon site internet le www.nbsexothérapie.com pour prendre un rendez-vous à mon cabinet de GAP ou de Sisteron.
Briançon, GAP, Castellane, Sisteron, Digne, Manosque, Marseille, Fréquence Mistral.